philosophie premier par le père Philippe, le 10 juin 2003 à Saint-Gédard.
Après ces journées familiales, il faut continuer la recherche de la vérité. Et nous reprenons ce que nous avions commencé la dernière fois, le problème de la subsistance, qui est un problème très délicat. Parce que je crois que, vous comprenez dans quel sens je le dis, c'est une pièce rapportée. En pure philosophie, on l'avait très peu développée. La subsistance chez Aristote, et on comprendrait bien. Il n'y insiste pas. Du reste, le problème s'est posé d'une façon très différente, là. Le problème s'est posé d'une façon très forte grâce à la théologie. La théologie n'est pas étrangère à la philosophie. Il ne faut pas l'oublier. Donc, accuser la théologie de poser de se développer un problème à cause, de développer un nouveau problème pour la philosophie, c'est normal. Hein, je suis chrétien et je suis philosophe. Et je suis chrétien avant d'être, du moins pas avant, mais plus profondément avant, selon l'ordre de sagesse. C'est sûr. Donc il y a constamment dans la personne humaine ce va-et-vient entre la foi et la raison. Et le Saint-Père lui-même a posé une encyclique entre ce va-et-vient constant. Alors, on peut établir des priorités selon un ordre de sagesse, des priorités de spécification et des priorités d'exercice qui ne sont pas les mêmes. Qu'il s'agit pour nous de bien comprendre ce problème de la subsistance qui, je crois, est un problème clé puisqu'il est de fait caractéristique de la substance. Seule la substance subsiste. Les accidents, non. Même l'intelligence. Hein. Mon intelligence n'a pas ce privilège, au point de vue de l'être, de subsister. C'est un problème très important dans le thomisme, où il y a deux positions. Il faut savoir qu'il y a deux positions, et quand il y a deux positions, on est obligé d'opter. Il ne faut pas rester dans le doute. Hein. Parce qu'il y a quelques textes de saint Thomas qui sont des textes de théologiens. C'est ce qu'on oublie beaucoup trop. Saint Thomas ne s'est pas présenté du tout comme un philosophe. Pour la philosophie, il est toujours coup de chapeau à Aristote. Et dans le ciel, il a dû reconnaître Aristote comme un philosophe émérite, merveilleux. Je crois que c'est beaucoup comme interprétation de saint Thomas. Parce que là, c'est très important. Saint Thomas se pose-t-il comme un théologien ou comme un philosophe? La somme théologique, c'est une somme théologique, c'est pas une somme philosophique. Et toutes les erreurs viennent de là. Parce qu'on ne reçoit pas saint Thomas comme un théologien. Alors il y a le jeune saint Thomas, D.N.T. Sanctia, qui est un livre de philosophie, de réflexion philosophique, c'est sûr. Saint Thomas pouvait réfléchir philosophiquement, et réfléchissait très bien, mais toujours en référence avec Aristote, le philosophe. Alors, c'est très vrai qu'il y a deux problèmes pour la subsistance qu'il ne faut pas confondre. Comment le problème s'est posé, l'origine, et ce que c'est que ce problème. L'origine, le problème s'est posé chez Aristote, mais il a été très rapidement résolu. Puisque la substance est principe, elle ne dépend de rien d'autre. Autrement, ce n'est pas principe. La substance est principe dans l'ordre de l'être. Donc, pour mon intelligence, il n'y a rien de supérieur. Je pose Dieu. Il est premier dans l'être. Il est plus que l'être. Il est Dieu. Mais je le pose dans mon jugement. Et je n'appréhende pas Dieu. Mon appréhension à l'égard de Dieu, elle se tait complètement. Et elle est dépassée par le jugement d'existence. Ça, c'est capital de bien comprendre ça. Autrement dit, de bien comprendre les rapports entre appréhension et jugement. Et de bien voir que ces relations appréhension et jugement ont été complètement brouillées depuis Descartes, au point de vue philosophique, au point de vue théologique, avant Descartes, dès le XIVe siècle. Donc, et c'est très juste de dire, il n'y a pas eu de successeur de saint Thomas. Tout de suite, il était en prise avec des difficultés théologiques. Saint Thomas est resté sans successeur. Et tout de suite, il y a eu l'école. Et c'est pas les mêmes choses. Au point de vue philosophique, vous comprenez bien. L'école, c'est au point de vue pratique. C'est très nécessaire au point de vue pratique, mais pas au point de vue spéculatif. Au point de vue spéculatif, l'école peut être un arrêt. C'est la même chose pour l'art. On a tous fait ces remarques quand on vise un musée, n'est-ce pas ? Et quand on voit l'école, après, on voit les grands maîtres. C'est ça qui est intéressant. L'école, c'est pas intéressant. Et c'est très pratique. C'est très pratique, l'école. Il faut une école. Parce qu'autrement, on est tous des isolés. Et étant des isolés, c'est pas très commode de vivre. On est vite écrasé. Tandis que l'école, c'est difficile à écraser. Il y a le nombre. Alors, il faut bien voir le problème historique de la subsistance, c'est très complexe, puisque c'est les rapports entre philosophie et métaphysique. Et au fond, la vraie discussion entre philosophie et théologie, discussion au point de vue historique, ce serait très intéressant à faire, et très intéressant sur ce problème de la subsistance, parce que c'est lui le problème clé. Mais je vois avec vous, en philosophe, ce qu'est la subsistance, tout simplement. Ça, c'est la philosophie. Ce qu'est la subsistance, c'est simple. Une fois qu'on a compris ce qu'est un principe, non pas une loi, je vous l'ai déjà dit, je le répète, la confusion dans notre intelligence, depuis le positivisme, on est tous un peu marqués du positivisme. Il ne faut pas croire qu'on y échappe. Et donc le positivisme confond loi et principe. Et font du principe une loi et de la loi un principe. Ce qui est faux, ce qui est une très grave erreur. Donc il faut dépister dans notre intelligence cette erreur. Ça, je ne peux pas vous l'enseigner, c'est vous. Parce qu'il faut un chirurgien très calé pour arriver à séparer principe et loi. Le principe, il est premier. Il n'y a rien devant. Donc, il ne peut être que saisi par lui-même. La loi, c'est une relation. Or, nous savons très bien que la relation au plan philosophique, c'est le dernier des prédicaments. Donc, confondre loi et principe, comme le positivisme, comme Auguste Comte, c'est la plus grande erreur qu'on peut faire au point de vue philosophique. C'est une erreur magistrale, puisqu'on confond ce qu'il y a de premier et ce qu'il y a de dernier. Vous comprenez que c'est une confusion quand même, magistrale. La relation, ce n'est pas un principe. Puisqu'il faut être deux. On est, la relation toujours regarde l'autre. Ça, c'est très très important au point de vue pratique. La relation, au point de vue pratique, c'est vrai, la relation, elle est un principe merveilleux. Et l'amitié, c'est capital. Mais attention, l'amitié peut être le plus grand danger, comme c'est la plus belle des choses, puisque on est deux et on ne veut jamais être seul. Ça existe, ça. Ça existe. Il y a des ânes qui ne veulent jamais marcher seuls. Et l'intelligence, quelquefois, à cette difficulté de ne pas vouloir voir marcher seul, toujours avec un autre. Donc, il faut bien tout le temps avoir ça en tête, hein, dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est la première façon dont nous pouvons ne plus penser comme le monde. Le monde pense mathématiquement. Aujourd'hui, le monde pense mathématiquement. C'est la grosse différence avec le Moyen-Âge. C'est la grosse différence avec Aristote et Platon. Le monde pense mathématiquement. Donc nous sommes tous formés par ça. Il ne faut pas dire, ah moi je suis... Non, il n'y a pas de danger, je comprends très bien ça. Je je suis né métaphysiquement. Métaphysique. Dans la métaphysique. Non. Nous devenons intelligents. D'une intelligence métaphysique. Et d'une intelligence mathématique. Donc, lorsqu'il s'agit de la subsistance, c'est capital de voir la différence. Et c'est la première différence qu'on doit voir. Le premier, dans l'ordre de l'être, que je saisis comme principe. L'être, il est. Il n'y a pas de distinction dans l'être entre essence et existence. Il est. Ça aussi, c'est capital. La distinction entre essence et existence, c'est déjà second. C'est à l'intérieur de l'être, puisque l'essence est être et l'existence est être. Donc c'est à l'intérieur de l'être qu'il y a distinction entre le point de vue formel et le point de vue final. Il y a une distinction. Donc il faut essayer de saisir que ce qui est premier dans l'ordre de l'être, un principe, nécessairement implique l'existence à sa façon, comme principe. Un principe existe autrement qu'une réalité, puisqu'il est principe. Vous voyez, nous avons une conception d'un principe toujours un peu comme une loi. Demande de distinguer loi et principe. La loi est abstraite, c'est une relation. Le principe, je ne dis pas qu'il est concret. Dire qu'un principe est concret, ce serait la négation du principe. Il est premier. Ce qui est premier n'est pas concret. Ni abstrait. Ce qui est concret et abstrait est toujours second par rapport à l'être. L'être est premier. Et l'être n'est. Il est essence et existence. Il est. Et c'est votre notion de l'être qu'il faut respecter beaucoup. Il faut caresser l'être pour qu'il ne s'échappe pas. Que notre intelligence soit en connaturalité avec l'être. Et quand notre intelligence est en connaturalité avec l'être, notre intelligence peut dire, oui, je vis grâce à l'être. Je vis par l'être. C'est mon bien. Alors, le principe... Puisque j'ai cette maladie d'abstraire, mon intelligence commence par l'abstraction. Elle ne commence pas par les métaphysiques. Un bébé ne voulait pas demander de faire la métaphysique. Il faut lui demander de crier. Il n'y a pas la métaphysique. Il ne faut pas dire... Un enfant fait de la métaphysique. Non. Il n'y avait que Jésus qui pouvait en faire. C'est le seul enfant qui pouvait être métaphysicien. C'était Jésus. Et notre intelligence commence par distinguer papa et homme. Et la distinction de papa et homme, c'est la distinction de ce que je vois, ce que je touche, et puis ce que j'abstrais. J'abstrais homme. Première abstraction universelle. L'universel n'est pas un principe, il est une relation. Donc génétiquement, je saisis la relation avant le principe. Ce qui est très important de comprendre ça. Génétiquement, je saisis la relation avant le principe. Alors, ce qu'on saisit premièrement génétiquement, dès qu'on est fatigué, ce premier génétique reprend toute sa force. Et donc, à partir du positivisme, il a dressé la barre, le drapeau. Si vous êtes intelligent, soyez positiviste. Parce que c'est votre intelligence qui se manifeste à ce moment-là. Auguste Comte, c'est ça. C'est pour ça que il est bon de connaître Auguste Comte. Aristote, Auguste Comte. Dans le ciel. Aristote, Auguste Comte. Qui me fait dire peut-être. Mais Auguste Comte a joué. Auguste Comte, depuis le 14e siècle, hein, Auguste Comte est le premier qui l'affirme avec force, avec triomphe, le drapeau. Et depuis Auguste Comte, il y a des quantités de petits-fils qui sont d'Auguste Comte avec beaucoup de finesse. Les mathématiques. Parce que parmi les sciences, les mathématiques ont une noblesse unique. Donc, les mathématiques mettent la relation en premier. La loi en premier. Et nous avons une peine énorme à dépasser ce point de vue-là pour saisir un principe. Un principe de l'être. Un vrai principe. Parce qu'au fond, les principes, c'est des principes de l'être. C'est la substance et l'acte. Tous les autres principes sont seconds. Et donc ne sont plus principes, puis qui sont seconds. Tandis que substance et principe, eh bien, le mode particulier du principe, je dis bien le mode. Ah. Le mode particulier du principe, c'est de subsister. Alors, qu'est-ce que je dis quand je dis le mode particulier du principe, c'est subsister. Je montre que le principe, au point de vue de l'être, est premier. Donc, il contient en lui cette noblesse particulière d'être premier. Dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de l'exister. Dans l'ordre de l'exister, il est premier, il subsiste. Vous voyez, il faut arriver à distinguer bien principe et mode particulier de ce principe. Dans l'ordre de l'être. Le principe dans l'ordre de l'être, c'est sa signification. La substance indique la détermination première dans l'ordre de l'être. C'est la détermination, c'est sa signification. Et la subsistance indique comment le principe dans l'ordre de l'être existe. Il est. La distinction essence-existence n'est pas encore faite. Est antérieur. Alors il est le principe. principe est, il subsiste. Il n'a pas besoin d'un autre pour exister. Il est. Et c'est ça qu'on veut montrer par la subsistance. C'est, j'allais dire, le titre de noblesse dans l'ordre de l'être. Il est premier. S'il est premier dans l'ordre de l'être, il subsiste. Il n'a besoin de personne d'autre pour exister. Il est. C'est pas commode, hein, saisir. Mais c'est capital. Historiquement, la théologie a beaucoup aidé, historiquement, sûrement. C'est du reste pour ça que la subsistance n'est plus tellement présente dans la philosophie contemporaine. On remplace la subsistance, ah, c'est toujours très important de regarder les ersatz. Les ersatz, c'est parce qu'on sait très bien que c'est très important, mais on n'aime pas de le dire. Alors on prend tout de suite les ersatz au point de vue conscience. L'ersatz de la subsistance métaphysique dans l'ordre de l'être, je la prends du côté de la pensée, la conscience. Je me demande si la conscience n'est pas l'ersatz de la subsistance. Je me pose le problème. Parce que ça aiderait beaucoup à comprendre. Vous savez tous, heureusement, hein, vous êtes fils de Kant, Descartes, d'Auguste Comte. Vous êtes bien né. Donc, vous savez tous très bien ce que c'est que la conscience. Et vous savez tellement bien ce que c'est que la conscience que vous parlez de la conscience. Comme si la conscience était toute seule. Alors on a toujours conscience de quelque chose. C'est ce qu'on oublie. Et c'est très intéressant et très systémique. Ça montre bien que c'est l'ersatz de la subsistance. L'ersatz de la subsistance dans mon intelligence, c'est la conscience. C'est ma conscience. Je ne peux pas aller plus loin. L'intelligence devient comme un âne et se dresse, n'allez pas au-delà de ma conscience. Alors, on se tait, on dit pauvre type, parce que dire ça, c'est se dire Dieu. Je vais toujours au-delà de ma conscience. Puisque ma conscience, elle est relative à ma connaissance. Elle n'est pas un absolu. Elle est relative à ma connaissance. Et ma connaissance, elle est dépendante de l'objet. Donc elle est dépendante de quelque chose. Et ma conscience, c'est toujours la conscience de quelque chose. Mais parler de la conscience tout court, vous voyez, on en fait une subsistance. C'est très curieux. C'est très curieux, ça, dans le monde d'aujourd'hui, de voir ça. La conscience, c'est mon Dieu. Alors, j'espère que vous voyez mieux, parce que c'est toujours très intéressant de voir l'ersatz, parce que ça, on comprend tout le monde, chacun d'entre vous comprend ce que c'est que la conscience. On a conscience qu'on réfléchit. Vous avez conscience de réfléchir, vous avez conscience d'être là, assis, et vous assistez à un cours. Et un cours de métaphysique, vous avez conscience de ce que c'est qu'un cours de métaphysique. La conscience. Alors, de la conscience, trouvez la subsistance. Quel est ce passage de la conscience à la subsistance? C'est de considérer que ma connaissance intellectuelle n'est pas mon être. Si vous comprenez que votre pensée, si noble qu'elle soit, si grande et si belle qu'elle soit, si géniale qu'elle soit, votre pensée n'est pas l'être. Et vous êtes bien obligé de manger. Et en mangeant, vous ne prenez pas votre pensée. Aujourd'hui, comme repas, vous penserez. Immédiatement, vous dites, mais ma pensée n'est pas mon être, c'est moi qui ai besoin de manger, c'est mon corps. Ah bon, vous distinguez donc l'être et la pensée. Alors, vous pouvez arriver à distinguer la subsistance. Et le phénomène de la conscience m'aide à comprendre la subsistance. Et aussi, constamment, c'est la confusion. Toujours très important d'attaquer directement la confusion. Dans notre monde d'aujourd'hui, conscience et subsistance s'identifient constamment. Dans le monde d'aujourd'hui, depuis Hocke, depuis Descartes, depuis Kant. Et vous faites la métaphysique distinguer conscience et subsistance. Votre intelligence dépend de la réalité qui existe. Vous n'êtes pas premier au point de vue de votre connaissance. Vous n'êtes pas premier. C'est l'être. Et vous pouvez alors arriver à distinguer conscience. Bon, c'est quand j'ai pensé que je dis la conscience. J'ai conscience de penser. J'ai conscience de vous faire un cours. Mais mon cours n'est pas ma conscience. Je distingue les deux. J'ai conscience d'un cours, que je fais un cours. Heureusement. Et vous avez conscience d'écouter un cours. Vous avez avoir conscience de la fin du cours, heureusement. Et à ce moment-là, vous passerez de la métaphysique au point de vue pratique. Et vous direz, cette métaphysique, c'est quand même assez extraordinaire que la pensée peut atteindre ce qui est. En moi, quelle est ma substance? Vous voyez? Quelle est ma substance? C'est mon âme. Ah. J'ai vu le passage de l'être à la subsistance. Et ça vous fait ce passage-là. C'est le mode particulier du principe, il subsiste. Tandis que l'accidence, il est inerte, il ne subsiste pas. Il a toujours besoin de s'appuyer sur la substance. Il est inerte. Je passe maintenant de ma substance à mon âme. Je sais que mon âme est ma substance. C'est-à-dire que première d'une façon absolue dans l'ordre de l'être. Puisque je ne suis pas premier dans l'ordre de l'être. Mon voisin, il a aussi une âme. Il a donc aussi une substance. Il est donc aussi le premier. Nous sommes tous les deux premiers. Ce qui prouve que nous sommes pas premiers tout court. Forcément. Donc mon âme est première dans l'ordre de la vie. Mon âme, elle a une possibilité de penser. L'intelligence émane de mon âme. Mon intelligence n'est pas créée par mon âme, mais elle émane de mon âme. Mon âme est spirituelle. Et donc elle pense, elle aime. Quand je me mets à penser intellectuellement, à voir ce que c'est que penser. Penser ce qui est devant moi, la réalité. Ou penser à moi. C'est encore mieux. Parce que cette réalité qui est moi est toujours là. Donc je peux toujours penser à moi. Personne ne peut m'interdire de penser à moi. Je peux dire ça au Père Maître. Je pense à moi. Alors, le Père Maître répondra, il vaut mieux penser à Dieu. Vous risquez de perdre beaucoup de temps de penser à vous. Et vous pouvez penser à vous. Quand je pense à moi, qu'est-ce que je fais? Je me retourne sur moi-même, j'ai conscience que je pense. Et je peux très bien dire, mais cette conscience, dans l'ordre subjectif, je ne dis pas dans l'ordre objectif, dans l'ordre subjectif, cette conscience est tout à fait première. Elle est coextensible à ma pensée, à mon jugement. J'ai conscience de penser. J'ai conscience de m'arrêter à ma pensée et de penser. Alors, à ce moment-là, où j'accepte que ma pensée dépend de ce qui existe, ou une réalité, ou moi-même. Quand je dis que je pense à moi-même, ah, suis-je identique à ma pensée, ou ne suis-je pas identique à ma pensée ? Grave question. Et importante. Si vous réfléchissez quelques instants, vous voyez, vous n'êtes pas identique à votre pensée. Puisque vous continuez d'exister et vous arrêtez de penser à vous. Et vous pensez à votre ami. Et vous pensez à la cuisine, au repas. Donc, penser à vous, c'est une pensée, ce n'est pas la pensée. La pensée est autre et plus profonde que penser à vous. Oh, alors la conscience n'est pas première, c'est évident. Elle est seconde, puisque c'est la conscience de telle pensée Et la conscience est présente, mais elle n'est pas première. Je peux penser des tas de choses. Et j'ai conscience de penser des tas de choses. Je vois que mon être est distinct de ma pensée. Voir que votre être est distinct de votre pensée, c'est un pas énorme. Vous ne pouvez pas être Dieu. Tiens, jusque-là, j'avais cru que je pouvais être Dieu. Non. Puisque vous n'êtes pas identique à votre pensée, vous n'êtes pas donc premier. Il y a une dualité entre ce que vous êtes et puis votre pensée. Votre conscience n'est donc pas première. Il y a la pensée. Et la pensée, elle vient de la réalité. Elle dépend de la réalité. C'est la réalité qui est première. Ah bon, la réalité, elle se distingue en réalité substantielle qui subsiste et en réalité accidentelle qui inerte. Je fais cette distinction par rapport à la réalité, pas par rapport à la connaissance. Et je retrouve distinction entre conscience et subsistance. Je crois que vous arrivez à mieux saisir ce que c'est que la subsistance en la comparant à la conscience. Votre conscience dépend de votre pensée, votre subsistance ne dépend pas de votre pensée. Quand vous dormez, vous continuez de subsister. Et on vous demande, est-ce que vous avez bien dormi? Vous dites oui, ou bien je dis non, j'ai eu un cauchemar. Qu'est-ce que c'est qu'un cauchemar? Vous êtes laissé emporter par votre imagination. Votre imagination a été plus forte que le besoin que vous aviez de dormir. Vous aviez le désir de dormir. Et votre imagination n'a pas compris du tout votre désir. Elle dit, tant mieux. Dès qu'il va se reposer. Je vais m'avancer. Et j'ai un cauchemar. Et vous n'avez pas de pouvoir pour arrêter ce cauchemar. Oui, le cauchemar vous prend et vous vous réveillez. Alors quand vous vous réveillez, vous avez le pouvoir. Mais pas avant. C'est très curieux cela. Et ça vous permet de bien distinguer subsistance dans l'ordre de l'être et conscience. Et votre conscience, elle a cette chose très particulière, c'est qu'elle est limitée. Elle est terriblement limitée, votre conscience. Et elle dépend de votre pensée. Et la qualité de votre conscience dépend de la qualité de votre pensée. Quand vous pensez métaphysiquement, ça arrive. Dès que vous arrivez à distinguer la substance et sa subsistance, vous pensez métaphysiquement. Vous avez conscience de penser métaphysiquement. Et quand vous avez conscience de penser métaphysiquement, vous voyez que vous êtes relatif à l'être. Et que votre jugement d'existence est là, présent, qui maintient la subsistance de la substance qui est première dans l'ordre de l'être. Et nous voyageons comme ça entre conscience métaphysique, ce qu'est notre être, ce qu'est mon âme, et mon âme subsiste. Alors, je distingue ma personne, est-ce qu'elle est ma subsistance? Ma subsistance, c'est mon mode particulier d'être premier dans l'ordre de l'être. Est-ce que votre personne, c'est d'être premier dans l'ordre de l'être? Non. Votre personne, c'est d'être premier dans l'ordre de la vie. Parce que votre personne, elle est libre à l'égard de l'autre personne qui est à côté de vous, à l'égard de l'autre. Elle est libre. Vous avez donc un certain pouvoir de domination qui s'explicite dans votre liberté. Et quand votre liberté s'explicite, votre personne est consciente. Vous avez conscience de votre personne. Donc, voyez, distinguez bien le principe dans l'ordre de l'être, la substance. Sa qualité particulière d'être subsistant. Vous êtes dans l'ordre de l'être et au niveau de l'être. Vous passez au niveau de la vie. Ma substance, c'est mon âme. Mon âme est première dans l'ordre vie, pas dans l'ordre de l'être. Elle est créée, donc elle n'est pas première. Mon âme est créée. Mon âme première dans l'ordre de la vie. Cette primauté dans l'ordre de la vie va se traduire comment? Elle va se traduire dans l'analogue, prenez bien, l'analogue de la subsistance dans l'ordre de la vie. Subsistance est dans l'ordre de l'être. Prenez l'analogue dans l'ordre de la vie. C'est la personne. La personne, c'est ma manière d'être, mon mode spécial dans l'ordre de la vie. Alors, elle implique connaissance, amour, elle implique passion, elle implique tout. La grande diversité de la vie et la grande unité. C'est ma personne.